France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Hélène Darroze fait partie de la quatrième génération à accueillir des convives amateurs de grande cuisine.
Allez, accélérez monsieur le service, là.
Mais hélas, parfois, même les belles histoires ont une fin. Hélène a décidé de quitter les Landes pour s'installer et tenter l'aventure à Paris.
Pour elle, être sacrée meilleure femme chef du monde, c'est une grande fierté et une récompense pour son travail.
J'ai pas toujours fait ce que mon père a souhaité, j'ai pas toujours fait ce qu'Alain Ducasse a souhaité, lui qui était mon père spirituel professionnel, quoi. J'ai toujours fait les choses avec beaucoup d'honnêteté, d'authenticité, des choses qui me ressemblaient, donc ça pour moi c'était plus important.
Bienvenue sur le plateau dont on va déguster pour une toute nouvelle masterclass devant le public du studio 621 de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes et tous. Ah ouais, vous êtes carrément chaud bouillant aujourd'hui, ça fait plaisir. Après Anne-Sophie Pic, Philippe Etchebest, Jean-François Piège, Olympe Versigny et Emmanuel Renaud, la grande signature de la gastronomie qui passe à la casserole de cette masterclass, épisode 6 dont va déguster cette Hélène Darroze. Bonjour.
Bonjour.
Des Landes à Paris, en passant par Londres, la Provence, Marrakech, sans oublier évidemment les plateaux de Top Chef, l'emblématique émission de M6, où vous attaquez, je crois, votre 10e saison dans le jury. Eh bien, vous allez nous raconter, chère Hélène, votre formidable destin de femme chef cuisinière. Alors, chef, vous n'aimez pas trop, je crois, hein, Hélène.
Je préfère cuisinière, oui.
Ah, vous préférez
voilà.
Cuisinière.
Ouais.
Voilà, formidable destin de cuisinière devant notre public. Merci encore d'être là, Hélène, et de vous prêter au jeu.
Merci à vous.
On vous rappelle la règle du jeu de cette émission très spéciale. Pendant une heure, on vous cuisine à petit feu avec nos questions, nos surprises gourmandes, notre fameuse séquence de la plaque de cuisson à laquelle vous allez vous prêter. Et puis, il y aura aussi un temps d'échange que vous ont concocté nos deux chroniqueurs, Rodé à l'exercice, Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Salut les copains.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Notre public est là, on sollicite votre aide, hein, cher public. Nous avons besoin de volontaires pour participer à nos dégustations sur ce plateau. Cette masterclass est réalisée par Laurent Thomas avec Rémi Sistiaga et Maxime Goudard. Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. Djoubaka pour la programmation musicale. Pour retrouver nos masterclass et tout leur contenu, les recettes, les bonnes adresses, les vidéos, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter. Les masterclass dont va déguster François-Régis Gaudry.
Hélène Darroze, quelques lignes de votre CV pour vous resituer. Vous êtes à la tête du restaurant Marsan, rue d'Assas, Paris 6e, 2 étoiles au guide Michelin, un restaurant qui a fait peau neuve il y a quelques années.
Exactement, ouais. Un restaurant qui existe depuis 25 ans maintenant, rue d'Assas. Depuis 2019, c'est un peu le rêve de toute ma vie, quoi. C'est le restaurant que j'ai rêvé, qui, je pense, est le restaurant qui me ressemble le plus, on va dire.
Vous dirigez aussi la table gastronomique de l'hôtel Connaught à Londres depuis 2008. 3 étoiles au guide Michelin, outre-Manche, depuis 2021.
Ouais.
Grosse fierté?
Gros bonheur, en tout cas. Moi, la fierté, c'est un sentiment que j'essaye d'écarter, parce que je l'associe beaucoup trop à un sentiment de supériorité, et ça, j'aime pas. Mais en tous les cas, c'est beaucoup de bonheur de cuisiner à Londres depuis 16 ans maintenant. Et c'est ma deuxième maison, quoi. Hein, donc,
Vous y êtes très souvent, d'ailleurs.
Ouais, j'y vais. Oui, j'y vais au moins 2 fois par mois, ouais.
Vous avez une équipe fidèle et solide.
Ah oui, bah heureusement, dans tous les restaurants, c'est la règle d'or. Hein. Je ne pourrais pas faire ce que je fais si j'avais pas de fidèles collaborateurs. Voilà.
Parce que vous avez également à Paris Joya, un genre d'auberge urbaine que j'aime beaucoup, particulièrement dans le quartier du Sentier, 39 rue des Jeuneurs, Paris 2e. Je me souviens notamment, il y a quelques années, d'un merlu de ligne entier à l'espagnol, définition de cette cuisson.
Le merlu est servi entier avec la tête, ce qu'on appelle la cogote de merlu, le collier, les cocos de chasse. Il est ouvert par le dos et il est cuit comme ça, à plat, avec du piment d'Espelette, bien sûr, de l'huile d'olive, et puis fini avec un trait de vinaigre à la fin. Voilà.
De l'ail, des pétales d'ail.
Et de l'ail, bien sûr, de l'ail. Ouais.
Et j'ai retrouvé d'ailleurs cette très belle recette de merlu à l'espagnol dans votre livre consacré à Joya, justement, qui est sorti il y a quelques années aux éditions du Cherche Midi. Vous avez également, Hélène, juste à côté, la maison Michaudière, un atelier de création où vous donnez des dîners à thème pour une vingtaine de convives. On est toujours dans le 2e arrondissement. Ce n'est pas fini, puisque vous dirigez la table de la Villa Lacoste, une étoile au guide Michelin. Si on compte bien, ça vous fait 6 étoiles au guide Michelin, ce qui est quand même une incroyable performance. La Villa Lacoste, c'est dans le domaine du château Lacoste, au cœur de la Provence.
Exactement, c'est une très belle maison. Et là, en Provence, j'ai pu donner libre cours à ce goût pour le légume que j'ai depuis toujours. Mais c'est surtout quand je suis arrivée pour travailler avec M. Ducasse, où c'était tout début des années 2000, et qui faisait un plat que de légumes. Et j'ai compris ce jour-là qu'avec que des légumes, on pouvait faire quelque chose de grandiose. C'est vraiment à Villa Lacoste que ça s'exprime, parce que c'est vrai qu'en Provence, on a un tel panel de légumes, et j'ai la chance d'avoir un jardinier, des jardins à disposition sur le domaine, mais en plus, tout un petit réseau de producteurs que Thomas, mon fidèle collaborateur là-bas, qui dirige les cuisines, a mis en place petit à petit, et c'est merveilleux, quoi.
Et vous avez depuis 2 ans un pied de l'autre côté de la Méditerranée, à Marrakech, au sein de l'hôtel Royal Mansour. Vous dirigez la grande table marocaine et la grande brasserie.
Ça, c'est passionnant parce que je reprends mon apprentissage là, hein, parce que par rapport à la cuisine marocaine, en tout cas, quoi, que je connaissais comme ça, comme on connaît tous, mais là, du coup, je suis obligée d'aller fouiner, d'aller fouiller, d'aller comprendre ce que la cuisine marocaine, c'est une cuisine très matriarcale, quoi. Hein, donc, je vais à la rencontre de ces femmes qui cuisinent et qui transmettent, et c'est fascinant, quoi. C'est super.
Alors justement, on va continuer à parler cuisine et je vous propose, Hélène, de dérouler votre parcours, votre univers gourmand à travers quelques ingrédients ou plats jalons qui ont ponctué votre parcours et votre vie. On commence avec le sandwich au foie gras.
Ah, vous êtes bien renseigné.
De quoi s'agit-il ?
Mais c'était mon goûter quand j'étais enfant. Bon, quand on avait
votre
été 4
sage, heures.
Quand on avait été sage, ouais, ma grand-mère.
Le fameux 4 heures hollandais.
Voilà. Quand on avait été sage, parce qu'on était toute une tripotée de cousins à vivre sur tous les week-ends dans l'auberge familiale. Hein. Et c'est vrai que ma grand-mère, dans le dos de nos parents et de mon grand-père, à 4 heures, elle nous faisait un sandwich au foie gras. Et alors, le pire, c'est qu'on lui demandait de sortir le petit truc noir là qui était au milieu, qui n'était autre que de la truffe. Ça nous disait rien. C'était pas tous les jours, mais sinon, elle nous faisait, c'était aussi très très bon, du chocolat noir qu'elle grattait comme ça sur un très bon pain de campagne. Ça aussi, c'était très très bon avec la crème épaisse du lait. Ça aussi, c'était un bon goûter.
Un plat, Hélène Darroz, qui a marqué votre carrière dans un contexte exceptionnel, le pigeonneau farci façon poule au pot et sauce au foie gras.
Oui.
Ah, ouais, ouais. 1996.
Exactement, que j'avais cuisiné pour monsieur et madame Chirac et Helmut Kohl et madame Kohl dans le cadre du salon du livre de Périgueux, parce que madame Kohl avait écrit un livre, elle était invitée, et M. Kohl l'avait accompagnée. Donc M. Chirac était venu, et il y avait eu, c'était pas un dîner d'État, mais enfin, il y avait un grand dîner à la préfecture, je crois, ou je sais plus où. Et j'avais cuisiné ce fameux pigeon qui était passé au guignol le lendemain, au guignol de l'info, parce que M. Chirac en avait redemandé 2 fois. Et Mme Chirac était arrivée à la fin du repas. Qui c'est qui a cuisiné le pigeon ? Alors moi, j'étais toute timide, j'avais 30 ans, même pas, hein, je commençais ma carrière. Hein. Moi, je levais le doigt comme ça. Je me dis, vous savez que mon mari et moi, on ne mange jamais d'oiseaux. Alors là, je ne savais plus quoi répondre. J'étais tétanisée. Et elle me dit, est-ce que mon chef peut vous appeler lundi pour avoir la recette ?
Le pigeonneau farci façon poule au pot. Vous ne dites jamais no au pigeonneau et surtout pas au fourneau du Connaught à Londres, parce qu'il paraît que vous l'avez même adapté à une grande recette anglaise, Wellington.
Ouais. Le Wellington, c'est un plat traditionnel anglais. C'est une pièce de bœuf qui est roulée dans une farce de champignons et ensuite dans une pâte feuilletée, je pense, à l'origine. Hein. C'est vrai que moi, je l'ai fait avec du pigeon et foie gras. Et puis, ben voilà, ça me suit depuis et ça a relancé la mode du Wellington. Voilà.
Vous, Jérôme Gagnès,
vous désossez intégralement le pigeon.
Voilà, exactement.
Et vous en faites un boudin, vous le roulez, en fait.
Oui, ouais, on marque juste les suprêmes et on met du foie gras au milieu.
Waouh, ça fait très envie.
Non, ça nous arrive aussi de le faire à Maison Michaudière, là, dont vous parliez tout à l'heure. On en a fait un la semaine dernière, une belle pièce de bœuf d'Aubrac. C'était magnifique.
Ouais. Splendide. Pour le prochain ingrédient, attention, changement d'ambiance et indice sonore.
Mon curculon, ça va être de la saucisson. Et il va être dans ma purée des céleri. De ma pilule et céleri, en fait.
Tu fais du céleri, toi ?
Ouais, j'aime bien le céleri, c'est un de mes légumes préférés.
Tu sais qu'il n'y a qu'une chose que je déteste, c'est le céleri.
Non.
Tu savais pas ça ?
Je savais pas.
Mais c'est universel, tout le monde le sait. Donc là, tu prends un risque. Ça veut dire qu'il faut me faire aimer le céleri.
Un extrait de Top Chef en 2023. Et autant dire que le candidat Miguel a dû faire une crise de tachycardie quand vous lui avez révélé votre détestation du céleri. Attendez, Hélène, on parle du céleri rave ou du céleri branche ou des
Alors,
deux?
Surtout du céleri branche, mais et aussi un peu du céleri rave. Le céleri rave, j'arrive à le manger. Après, voilà, c'est quelque chose qui me
C'est devenu une joke.
Voilà, c'est ça. C'est monté à la sauce Top Chef qui, à chaque fois, amplifie les choses. Il m'arrive d'en manger de temps en temps, quoi.
Mais, attendez, mais il paraît même que vous intégrez du céleri dans un plat au Maroc, l'un de vos plats signatures de la grande table marocaine, homard bleu des côtes de Doukala Abda au céleri.
Ouais. Ça nous est arrivé de faire un tagine avec
au céleri. Oui,
oui. Ah, mais oui, oui, mais voilà. Il y a ça, et je déteste tout ce qui est melon et pastèque. Mais ça n'empêche que.
Et ben ça vous.
Mais ça n'empêche qu'on fait un foie gras que j'ai fait goûter à mes collègues de Top Chef, justement, qui est avec du melon, qu'on appelle piel des sapots, le melon peau de crapaud.
Oui.
Donc je cuisine quand même aussi les ingrédients que je n'aime pas.
Elvira est beaucoup plus intolérante que vous, parce qu'elle ne cuisine jamais de melon. Et elle fait à 3 km.
Moi, je ne le mange pas, attention.
Voilà. Voilà une femme raisonnable.
Vous pouvez nous en expliquer.
Non, je ne peux pas vous expliquer. Et d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus m'exprimer sur le sujet parce que je ne veux pas me mettre les producteurs de Cavaillon à dos.
D'accord.
Voilà.
On passe à une saveur sucrée nettement plus réjouissante pour vous, Hélène Darroze. Le russe.
Ah oui, bah oui, le russe, ça c'est...
Mais c'est culturel.
Ah oui, celui d'Artigarède, voilà, bien sûr.
Ouais, ouais. On est où là?
À Oloron-Sainte-Marie. Et moi, j'avais mes cousins germains qui habitaient à Oloron.
Donc on est dans les Pyrénées-Atlantiques.
Dans les Pyrénées-Atlantiques. Et voilà, il y a ce fameux russe Artigarède qui est copié, 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 mais que personne n'arrive à le.
Mais il faut nous dire ce que c'est qu'un russe.
Mais qu'est-ce que c'est?
Ah, pardon.
Un russe.
Alors le russe, c'est.
Il y a une grosse casserole qu'on appelle un russe.
Oui, non, c'est pas ça. C'est un dessert.
C'est
donc
une dacquoise pralinée.
Voilà, c'est ça, une dacquoise avec une crème au beurre praliné.
Ah, c'est bien.
C'est assez riche,
ah
c'est,
oui, c'est bien, ça.
Mais c'est délicieux. C'est
avec du gras et du sucre, ouais. Enfin. Ah, bien,
et vous partagez ce goût avec Yves Candebord, dont c'est dessert préféré aussi.
Et je le partageais avec Johnny Hallyday. Johnny a adoré le russe d'Artigarède et pas d'autre.
Ouais.
Donc chaque fois, je ramenais
c'est
un russe.
C'est vous qui lui avez fait découvrir?
Non, pas du tout. Il a dû découvrir ça en tournée.
Alors, on a appelé la maison, heureusement, à la pâtisserie Artigarède. Ils nous ont tout dit. Et ils nous ont dit que vous le mangiez régulièrement. Qu'en plus, il était fait avec des amandes, des noisettes, du beurre des Pyrénées, s'il vous plaît, du lait du Béarn et les œufs des poules de la famille. Plus un ingrédient secret qu'ils n'ont pas voulu nous révéler. Voilà.
Il y a un truc, en tout cas, ça, c'est sûr. Hein, c'est, mais voilà.
Je vais me précipiter pour aller goûter ça.
Ah ouais, oui.
Ils vont être dévalisés.
Je ne sais pas si on le trouve à Paris. Hein,
à Bordeaux, peut-être, non?
À Saint-Jean, ça c'est sûr, Saint-Jean-de-Luz, mais...
Alors, je vais être obligé d'aller à Saint-Jean.
Bon, voilà, le russe de la pâtisserie Artigarède à Oloron, Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans un instant, on va déguster pour de bon, Hélène. On va arrêter de parler de la cuisine, mais on va carrément la goûter. On va s'échanger nos cadeaux gourmands, l'occasion de faire venir à notre micro quelques goûteurs et goûteuses de notre public. Elvira vous a préparé une surprise, et puis on va parler de votre parcours en commençant par les Landes et le restaurant familial de votre père Francis à Villeneuve-de-Marsan.
Dès qu'elle rentrait de classe, elle aimait de suite venir faire un petit tour, s'enseigner pour voir comment se passait dans la cuisine, à prendre son doigt, à goûter, à s'intéresser. Petit à petit, elle s'est mise à elle-même confectionner, surtout les pâtisseries à l'époque. Hein.
Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au coup de chef maison. Un Bordeaux, pas piqué des hannetons. De temps en temps, y a un vieux pull à sueur qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre. Et puis une nana, une jolie drôlesse qui lui vante son magasin à fesses. Au Corboyau, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sert, t'as les premières douleurs au dessert. L'estomac genou qui demande pardon, les boyaux qui tricotent des napperons. Les rotules de grand-mère, c'est du beurre, à côté du beefsteak pomme vapeur. Si avant d'entrer, il te reste une molaire, un conseil, tu la laisses au vestiaire. Au Corboyau, le patron s'appelle Bruno. Sa femme est morte il y a 3 mois d'un ulcère à l'estomac. Dans le quartier, même le mois le plus doux, tu ne risques pas d'entendre miaou. Des greffiers mignons, y en a plus bézef. ils sont tous devenus terrine du chef. Je me souviendrai longtemps d'un gazier qui voulait à tout prix du gibier. Il chuta avant de sucer les os, les moustaches en croix sur le carreau. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il envoie des postillons, ça fait des yeux dans le bouillon. Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au croc de chef maison. Un Bercy pas piqué des hannetons. Cet endroit est tellement sympathique, y a déjà le tout Paris qui rapplique. Un petit peu déçu de pas être invité ni filmé par les actualités. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Allez vite le voir avant qu'il s'achète la tour d'argent.
Le Torboyau de Pierre Perret, une chanson de 1963 pour assaisonner la masterclass de la cuisinière Hélène Darroze. On évoque avec vous, Hélène, justement, trois hommes que vous connaissez bien ou qui ont compté dans votre vie, à commencer par celui qu'on entendait, Pierre Perret.
Alors oui, énormément, il compte toujours d'ailleurs. C'était vraiment la bande de copains de papa, Pierre, et Jean-Claude Berouet, qui était Monsieur Pétrus à l'époque, et ils s'entendaient comme trois larrons en foire, et j'ai assisté notamment à des dégustations de vin jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. J'étais haute comme trois pommes, hein, mais c'était fabuleux.
C'est un très très grand monsieur du vin, Jean-Claude Berouet, c'est une légende.
Mais Pierre aussi, hein, Pierre, il a une cave fabuleuse.
Il a la réputation d'avoir une collection, une cave extraordinaire.
Ouais, et puis surtout un palais et un nez incroyable aussi. Ouais. Hein, c'est tous les trois ensemble, ça valait le coup de les entendre.
On entendait juste avant la chanson de Pierre Perret, votre Père Francis, dans un extrait d'un documentaire « Dans la cuisine d'Hélène Darroze » de Pascal Petit, un documentaire de 2013. Vous avez perdu votre papa en 2021. Je m'en souviens, à titre personnel, nous étions en tournage pour Top Chef. Mm-hmm. Ça a été évidemment pour vous un papa. Ce fut aussi un chef, une figure emblématique, très importante de la gastronomie landaise, mm-hmm. avec lequel vous n'avez pas toujours été d'accord, ça vous l'avez dit ?
Non, ouais, non. C'était deux générations différentes. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques petits frottements, mais voilà.
Vous avez travaillé à ses côtés ?
Non. Depuis enfant, hein, moi j'allais régulièrement dans la cuisine, d'abord faire la plonge, et puis après un peu, voilà. Mais après, quand je suis rentrée de chez Monsieur Ducasse, j'ai passé 4 ou 5 ans dans la maison familiale, dont un avec papa. J'ai failli repartir avec Monsieur Ducasse, il m'a dit non, c'est moi qui m'en vais, tu prends les clés de la cuisine. Et c'était très généreux, parce que moi j'avais pas beaucoup d'expérience, et il n'y avait qu'un papa qui pouvait faire ça.
C'est en quelle année, ça
95, ça devait être 95-96.
Transition toute faite vers celui que vous considérez comme votre papa de cuisine, landais comme vous. Vous avez collaboré avec Alain Ducasse à Monaco, au Louis XV, alors ça c'est 1990.
C'est ça.
Il paraît que c'est votre père Francis qui lui avait envoyé une bouteille d'Armagnac.
Oui, et bah, il venait d'avoir 3 étoiles et oui. Vous savez comment c'est, on félicite, etc. Et papa, au-delà d'être cuisinier, c'était aussi un grand éleveur d'Armagnac.
Ah oui.
Et quand moi j'ai commencé, parce que moi j'ai fait une grande école de commerce, donc quand j'ai commencé au départ à chercher du boulot, j'ai voulu postuler à la société des bains de mer où il y avait le Louis XV.
Mais pas du tout pour travailler en cuisine, pour vous occuper de l'administration du restaurant.
C'était plus pour travailler dans les bureaux de la SBM et Monsieur Ducasse m'a dit, mais moi j'ai besoin de quelqu'un, et voilà. Et on s'est rencontrés, ça a matché entre nous. J'ai travaillé de toute façon dans ses bureaux. Pour des questions d'agenda, il ne voulait pas que je commence avant une telle date. Et moi, j'ai dit, je vais aller en stage en cuisine. Et là, il m'a dit, bah attendez, le stage en cuisine, vous allez le faire chez moi. Et c'est comme ça que, voilà.
Pendant 3 ans.
Ouais.
Il paraît que vous passez du temps dans la famille italienne du chef Malvolatore.
Voilà, lui a été vraiment très important pour moi. Ouais.
Et sa maman, qui est, paraît-il, une formidable cuisinière.
Léna, ouais. D'ailleurs, ils sont tous les deux décédés, les pauvres, mais ces deux personnes-là ont été pour moi, oui, c'était ma deuxième famille déjà. Je me souviens le premier jour où je suis rentrée dans les cuisines du Louis XV. D'abord, M. Ducasse a dit à Mario, je te la confie. Et il me dit, bah, tu vas rester avec moi cet après-midi, on a fait un lièvre à la royale. C'était la première recette que j'ai apprise à faire et que j'ai vu faire. Et Mario était un cuisinier incroyable, quoi, incroyable.
Et vous avez dégusté la pasta della mamma, qui vous a d'ailleurs poursuivi, la pasta de Lena, et a été systématiquement mise au menu de tous vos restaurants.
Ah oui, oui, oui. Il y a pratiquement toujours une pâte dans mes menus. Et puis, oui, elle m'a tellement appris la cuisine de mama,
celle que je connaissais en fait de mes grands-mères et que j'ai retrouvée mais du côté italien, et c'était tous les week-ends, enfin j'appelais week-end, c'était le mardi, mercredi quand le restaurant était fermé, j'allais à Pigna en Ligurie.
Pas très loin de la frontière.
Voilà, et on cuisinait avec Léna, cette cuisine de mama italienne, et c'était juste... Et j'ai toujours un rêve, d'ailleurs. En plus, je suis entourée d'Italiens, aujourd'hui en France et en Angleterre. Donc, et on a toujours ce rêve de faire une trattoria un peu moderne, parce que j'ai cette envie de tout ce que j'ai appris, de le dire aussi, quoi. Hein.
Oh là là, ouais. Il faut toujours des Italiens et des Italiennes dans la brigade d'un grand restaurant, ça doit être un principe. Et puis, on va passer à un autre homme du métier qui a beaucoup compté dans votre vie. Je suis allé lui tendre le micro.
Je m'appelle Jean Sévègne, je suis le chef du Café des Ministères à Paris. Ben, Hélène Darroze, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Je la connais depuis 26 ans, depuis son arrivée à Paris, 99-2000, c'est là où j'ai rejoint Hélène. J'ai commencé au restaurant gastronomique et quand j'y suis revenu, j'étais plus son bras droit pour l'ensemble de ses restaurants. On partage le sud-ouest comme terroir. Elle est vraiment du sud-ouest par rapport à moi finalement. Mais on a cette cuisine généreuse de produits. Puis bon, j'ai rencontré l'amour là-bas, quoi. J'ai rencontré Roxane à Marsan.
S'il y avait un petit message que tu voulais lui faire passer?
Rien, elle le sait, je l'aime. Elle m'a accompagné à plein de moments de ma carrière. Mais je lui suis reconnaissant parce qu'elle l'a fait, parce qu'elle est comme ça. Elle nous l'a donné et je l'en remercie.
T'as l'air assez ému?
Ouais, je suis complètement ému, c'est pas des blagues. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui ment pas. Quand elle aime, elle aime. C'est plus que de la cuisine. Il y a la cuisine, mais elle donne beaucoup d'amour dans ses plats, dans ses machins, et on a eu la chance qu'elle nous en donne. Et voilà, mais je suis reconnaissant.
C'est moi qui suis ému là. Ah ben Jean, c'est quelqu'un de très important. Et chaque fois qu'il m'écrit un petit mot, parce qu'à chaque occasion, il écrit beaucoup, Jean, il finit toujours « je vous aime ». On vous aime, parce que maintenant, il associe toujours Roxane. Hein, et voilà, et c'est un garçon formidable, un cuisinier hors pair, et qui m'a donné beaucoup. Moi, je les aime tous les deux aussi énormément. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment le décrire. Hein, c'est la générosité... Je ne sais pas s'il l'a prise chez moi ou quoi, mais tout ce qu'il dit, il l'a aussi. C'est un garçon rare, quoi. C'est un couple rare, quoi. Mmh.
Vous vous souvenez, Jérôme Gagnès? Nous avons découvert ensemble le Café des Ministères. Hein.
Oui, tout à fait.
Leur bistrot à deux pas du Palais Bourbon.
Exactement, on a goûté ce vol au vent.
Vous vous souvenez de l'année ou pas?
2019.
Oui. 2019.
Mai 2019.
Vol au vent, boum.
Ouais.
Et c'est une adresse extraordinaire.
J'ai venu quand on a fêté les 15 ans du Conot, j'avais invité tous ceux qui sont passés dans mes cuisines et au Conot et qui sont devenus quelqu'un, et il a cuisiné son vol au vent. Voilà, c'était juste formidable.
Allez, je vous propose de passer à notre séquence suivante, le troc gourmand. C'est un échange entre nous, Hélène, de bons procédés, de bons produits. Vous nous faites déguster une surprise. Vous avez eu totalement carte blanche et en échange, on vous réserve une surprise, ça vous va?
Ça me va.
Et bien vous commencez. À notre micro, Emmanuel et Amina du public pour déguster avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous venez d'où?
Je viens de Malakoff.
Très bien, bonjour Amina.
Bonjour.
D'où nous venez-vous?
Paris 17.
Est-ce que vous sauriez, alors on est à l'aveugle tout comme vous, hein, je tiens à vous le dire, vous sauriez décrire ce que vous avez dans votre assiette sous vos micros?
Alors deux tranches fines.
Oui.
Jambon.
Ah, on va voir, peut-être s'agit-il d'une salaison, d'une charcuterie, Emmanuel?
Oui, ça me fait penser à une salaison, en effet. Le tour est beaucoup plus foncé que le centre.
On goûte?
C'est très parfumé au nez, hein.
Mmh.
Avant même de goûter.
Voilà, quelle profondeur.
C'est bon, hein.
Emmanuel et Amina.
Alors déjà, pour commencer, c'est excellent.
Ouais.
C'est très très bon.
Il y a une très belle longueur en bouche.
Très belle longueur en bouche, j'entends bœuf du côté d'Amina. Il faut imaginer une tranche.
Comme un carpaccio.
Avec un persillé exceptionnel. Ouais. Ces petites marbrures blanches qui constituent un gras très profond, avec un goût incroyable. Vous aimez ça ou pas?
Très très bon.
On sent bien en effet le gras qui reste sur la langue.
Oui. Ouais.
Il y a des épices autour, je ne saurais pas dire lesquelles.
C'est fumé.
Poivre. Subtil.
C'est légèrement fumé.
Ce gras
est-ce que c'est
exceptionnel.
Du bœuf? C'est
ouais.
Du bœuf.
Oui, oui.
C'est quoi le...
C'est le rum steak, le cœur de rum steak.
Le cœur de rum steak.
Alors, Hélène.
C'est une charcuterie qu'on fait à Londres, au Connaught, dans du bœuf wagyu qui est élevé dans la région de Birmingham. D'abord, ça a été mariné dans sel, sucre, épices. Donc, il y a du girofle, du genièvre, sel de...
Donc, il y a un petit côté gravlax de bœuf.
Ouais.
Qui avait dit épices, Emmanuel ?
Oui.
Bien joué.
Et des herbes, hein, romarin, laurier, etc. Donc ça, c'est mariné comme ça pendant 24 heures. Ensuite, on le laisse pendant 7 jours, on le marine dans du vin rouge.
Ah, d'où le tour qui
ouais,
se...
Exactement.
Foncé.
Exactement. D'accord. Et puis ensuite, eh ben, on le ficelle, on le met dans une chambre de maturation pendant 3 semaines. On le fume avec du genévrier, avec des branches de genévrier. On le fume une fois par semaine pendant 3 semaines.
Oh la vache.
On le fait sécher dans des frigos parce qu'on n'a pas de cave au Connaught. Là, il a été séché 4 mois.
Exceptionnel.
Voilà. Extraordinaire.
Le seul problème avec cette pièce de salaison de bœuf, c'est qu'on n'en a que 2 fines tranches chacun.
Voilà. Tiens, regardez, ça restera un peu parce que...
Voilà. Ça, c'est un truc...
C'est extraordinaire.
C'est un truc absolument étourdissant.
Une intensité de saveur, une profondeur qui est vraiment extraordinaire.
C'est incroyable. Merci pour ce cadeau. Vous le servez dans quelles circonstances,
On le sert autour d'un plat de wagyu en 3 étapes, où il y a du filet qui est cuisiné. Et après, il y a un petit bouillon à côté fait avec des parures. Et puis il y a cette tranche de cecina.
Incroyable.
Enfin, on dit cecina, mais bon, ouais, de cecina bretsaola, quoi. Je
vois. C'est ça. Alors, je vois notre public avec la bave aux lèvres. On va vous en couper quelques tranches et vous allez voir, c'est une expérience assez exceptionnelle. Un grand merci pour ce beau cadeau,
c'est
Hélène. En plus, évidemment, cet extrait de votre écosystème, de votre univers, notamment du côté du Connaught où vous officiez dans votre restaurant 3 étoiles. C'est à nous de vous faire une surprise, j'espère qu'on va être à la hauteur. Mais c'est plus exactement Jean Sévègne, le revoilà, qui s'occupe de la surprise.
Là, on est dimanche, il est 11h. Hélène, est-ce qu'elle a envie, c'est manger des asperges blanches? Parce que là, on est en saison, elle veut manger des asperges. Et des asperges avec une cuisson parfaite et une sauce un peu gribiche. Des capes de Pantelleria, un œuf qui aurait cuit 8 minutes, écrasé à la fourchette, un peu monté à l'huile, un très bon vinaigre de vin vieux, quelques capres, et puis c'est tout. Elle a envie de manger ça, moi je le sais. Puis bon, tu rigoles pas à la cuisson, tu rigoles pas avec Hélène, des asperges, c'est sacré. Ça va lui faire trop plaisir.
Il me connaît bien.
Et voilà, les assiettes circulent. Vous aviez envie de manger ça ou pas à cette heure précise?
Ah ben ça, ouais, moi ça me va très très bien. Moi, les asperges blanches, moi c'est, je pourrais manger ça sur la tête d'un pouilleux, moi.
Elles viennent des Landes spécialement pour vous.
C'est vrai.
Vous les dégustez, vous les commentez, et surtout vous nous dites si elles ont la juste cuisson.
D'accord. Ok.
Oh. Ah, elles sont belles ces asperges.
Elles sont magnifiques.
En fait, l'asperge blanche, vous savez pourquoi elle est blanche?
Parce qu'elle reste dans la terre.
Voilà, exactement.
Elle n'a pas fait sa photosynthèse.
Voilà. Et moi, alors moi, quand j'étais petite, j'allais avec mon grand-père qui avait un champ d'asperges avec ce qu'on appelle la gouge, je l'ai ramassé. Et moi,
c'est ce grand bâton qui permet d'aller casser.
Sincèrement, et ça se casse comme du cristal, une asperge fraîche. Hein. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais le bruit que ça fait, clac. Voilà.
Un bruit très naturel. J'ai assisté à ça dans les Landes.
Moi, c'est tout ce qui est Madeleine de Proust. Et alors, nous, on les dégustait le jour même. Quoi. Alors déjà, il fallait les peler sur un vieux journal. Là, on pelait. Et faire très très attention, parce qu'une fois de plus, ça se casse comme du cristal, et on les dégustait vraiment le soir même, ou le midi même, etc. Donc, il n'y a rien de plus jouissif que ça, pour moi. Et ce sable des Landes donne un goût sucré.
Et vous les mangez avec une sauce, avec une...
Ça, c'est une sauce que Jean a pris avec moi, hein, parce que c'est la sauce à l'œuf, avec des capres, l'œuf un peu plus que mollé, et voilà quoi.
Pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, qui ont la chance d'avoir comme ça une botte d'asperges blanches, qu'elles viennent d'Alsace, ou des Landes, ou du Val-de-Loire, comment vous...
Ou de Blaye.
Ou de Blaye, absolument. Très dans important. Le Blayais, on n'est pas très loin de Bordeaux, vous êtes décidément un chauvin, Jérôme Gagnaise. Quelle cuisson vous recommandez, Hélène?
Alors, je recommande de prendre déjà une marmite assez haute. Il faut faire des petits fagots, hein. Il ne faut pas les mettre comme ça dans l'eau bouillante. Hein. Un légume, c'est comme une viande, ça doit se saisir. Hein. Donc, elle doit être bouillante, salée. Et on commence à les cuire, parce que le bout cuit toujours plus vite que le reste. Donc, on commence à les cuire droite, quoi, en fait, hein, pendant 2-3 minutes. Et après, on peut les pencher pour que le bout cuise aussi. Et donc là, c'est oui. Moi, j'aime pas quand c'est trop craquant, quoi. Hein. J'aime quand elles sont plutôt fondantes. Là, c'est la cuisson parfaite. Donc, ça fait, 6-7 minutes de cuisson, quoi.
6-7 minutes de cuisson avec une bonne gribiche. Qu'est-ce qu'en pensent nos goûteurs, notre goûteur et notre goûteuse, Emmanuel?
Écoutez, j'en ai mangé hier soir, mes premières de l'année.
C'est vrai?
Oui.
Des blanches ou des vertes?
Des blanches. Beaucoup plus fines, d'ailleurs. Vous préférez les fines ou plutôt les grosses?
Moi, j'aime tout. pense moi je préfère les grosses.
Elles sont plus pulpeuses, plus charnues. Amina, vous aimez les asperges ou pas?
J'adore, mais je ne sais pas les cuisiner. Donc je vais apprendre, je vais essayer la recette. Et la sauce est très très bonne. Elle est
avec
délicieuse.
Cette sauce à l'œuf.
Ah ouais, ouais, c'est très très bon.
Et bien justement, Jean Séveigne nous fait l'amitié de nous donner la recette de sa sauce gribiche pour accompagner ses asperges. La recette à retrouver, apprise donc, on l'apprend aujourd'hui chez Hélène Darroze sur
franceinter.fr.
Si à la page, on va déguster.
Je crois qu'elle est dans le livre de Joya.
Je remercie chaleureusement Emmanuel et Amina. Merci de vous être prêtés au jeu.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et je cède la parole à Elvira Masson.
France Inter. On va déguster.
Hélène, c'est devenu une tradition dans cette masterclass. Je choisis pour notre invité un cadeau qui me paraît pertinent. Voici un livre et un deuxième livre. D'ailleurs, François-Régis, vous voulez lui passer ?
Mais avec plaisir, on fait passer les bouquins.
Alors, il s'agit, le cadeau principal, c'est Sauvage, qui est un roman de Julia Carninon, aux éditions L'Iconoclaste, que j'avais lu à sa publication à l'automne 2023 et qui m'avait déjà, à l'époque, fait penser à vous, Hélène. C'est une histoire qui se déroule à Rome, aujourd'hui. Ottavia Selvaggio est cuisinière, comme son père, dont elle a hérité du don, de la passion et du goût du travail acharné. On la suit au fil des ans, quand elle ouvre son restaurant avec Cassio, son ombrageux premier amour. Puis elle se marie avec un critique gastronomique, avec qui elle a des enfants. Elle est passionnée par son travail de façon dévorante. Elle ne dévie pas de sa trajectoire. C'est son mari qui s'occupe des enfants. C'est un roman très fort sur plein de choses. Le passé, la filiation, l'amour, mais aussi sur l'engagement physique que demande la cuisine, le clivage entre cuisine domestique, quotidienne, en prise avec la vie réelle, et la cuisine destinée à être présentée publiquement dans un restaurant. C'est surtout un texte vraiment très fort sur ce qui se passe dans la tête et dans le corps d'un personnage solitaire, une femme indépendante, tout à son travail, une femme libre et inflexible, jusqu'à ce que ressurgisse du passé un ancien amoureux qui va tout bousculer. Alors j'ai vu pas mal de choses...
Ça c'est, c'est du pitch, hein. On a très très envie de le lire.
J'ai vu pas mal de choses qui sont susceptibles de vous toucher, Hélène. D'abord l'histoire de l'affiliation, et aussi une dimension assez sentimentale. Vous qui avez, il y a presque 20 ans, publié un livre qui s'appelait « Personne ne me volera ce que j'ai dansé », un très joli livre, personnel, intime, qui n'était pas un roman, mais un livre qui mêlait recettes et textes d'une femme amoureuse qui cuisinait pour quelqu'un, en pensant à quelqu'un qu'elle aimait en particulier. C'était aussi un peu en creux votre autoportrait.
C'était presque un journal intime.
C'était un peu
incroyable.
Ouais, ouais.
Alors je sais, Hélène, que vous êtes une grande lectrice. Avez-vous déjà lu Sauvage de Julia Carninon ?
Non, pas du tout. Non, je vais le lire avec plaisir.
Chez vous, il y a des livres partout. Je me souviens d'une table. Je suis passée chez vous une fois. Il y avait une table
partout, dans le salon. Ça déborde. Je ne sais plus où les mettre.
Les livres et pas que les livres de cuisine. Comment et quand lit-on quand on est chef avec combien de restaurants ? On a dit 5. 6,
7 maintenant.
7
avec vos deux filles aussi.
Et deux enfants.
Ouais. Eh ben, c'est pas du tout raisonnable. Moi, c'est ma croix presque, parce que moi, je rentre du travail assez tard. En général, je rentre vers 11h. Bon, et puis je décompresse. Et puis je me mets à lire. Et quand c'est passionnant, je peux lire jusque très tard.
Vous dormez très peu.
Quand je suis dans un livre passionnant, oui, je raccourcis mes nuits, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Justement, je me disais il y a quelques jours, il faut que tu arrêtes de lire, il faut que tu lises que pendant les vacances, quoi, mais c'est pas possible, quoi.
Ottavia, qui est le personnage principal du roman de Julia Carninon, est une femme plutôt solitaire, assez dure, assez intransigeante. Est-ce qu'il vous semble que ce sont des traits de caractère ou des dispositions qui sont peut-être indispensables quand on est une femme dans le milieu de la gastronomie ?
Alors, je pense qu'il faut avoir beaucoup de rigueur, soi-même déjà, et puis ben, après un peu l'imposer aux autres. Maintenant, l'intransigeance, je pense qu'on peut faire quand même, on peut... Enfin, moi, en tous les cas, je suis très ouverte au contraire à la communication et à écouter ce que disent les autres et à me remettre en question si je pense qu'ils ont raison. Donc, voilà. Par contre, solitaire, oui, par la force des choses. Moi, je pense qu'on est quand même un peu seul avec soi-même quand on travaille à ce niveau-là et surtout qu'on travaille beaucoup comme ça. Mais voilà, sur l'intransigeance, je pense qu'on peut faire autrement, je pense. Voilà.
Est-ce qu'il vous a été difficile, parfois peut-être douloureux, de concilier votre vie de cuisinière, donc pas de chef, on l'a compris, et une vie de famille avec deux enfants?
Ma vie de femme, je pense que je l'ai un peu sacrifiée. Par contre, ma vie de maman, je l'ai jamais sacrifiée. Ça a toujours été ce qu'il y avait de plus important pour moi. Après, voilà, moi j'ai la chance Bon, même si je travaille pour d'autres, j'ai la chance que d'être un peu ma patronne et de me gérer, voilà, même au Connaught. Je veux dire, mes petites filles, elles ont grandi dans les cuisines du Connaught aussi, quoi. Hein. Le samedi soir, quand j'allais travailler, elles étaient dans mon bureau en face des cuisines et y en avait une qui dormait dans la poussette et l'autre qui regardait un Disney sur une tablette ou qui faisait des dessins. Et elles savaient qu'elles pouvaient venir me voir dès qu'elles le voulaient, quand elles le... Voilà, et les nounous le savaient aussi. Donc, voilà, c'était leur univers, elles ont grandi comme ça. La maison a toujours été à 5 minutes de mes lieux de travail, leurs écoles aussi, donc c'est voilà. Je pense pas que ça, je l'ai sacrifié, même si quand même, quand il y a eu le confinement, ma grande fille m'a dit, elle avait 10-12 ans à l'époque, 12 ans à l'époque, elle m'a dit, tu te rends compte, maman, il a fallu qu'il y ait un confinement pour qu'on ait une vie normale et que tu sois là le soir. Donc, je pense que quand même, il y a eu quelques frustrations. Mais voilà. Par contre, ma vie, même d'amis, c'est vrai que je vois beaucoup moins mes amis que ce que je le souhaiterais. Et puis, voilà. Oui, il y a des... C'est pas des sacrifices, c'est des choix qu'il faut faire. Moi, j'adore mon métier. J'aime tellement mon métier. Il m'apporte tellement de satisfaction. Moi, on me dit, mais comment ça se fait que le samedi soir, t'es encore dans tes cuisines à recevoir tes clients et à être avec tes équipes. Mais parce que j'aime ça, c'est tout simplement, quoi. J'aime ça. Si on me le sortait, ce serait... voilà. Donc, j'ai quand même cette chance de vivre ma passion, et même si elle demande certains choix difficiles.
Le deuxième petit cadeau, c'est le dernier livre de Julia Cardinon, qui est sorti il y a quelques mois. Et ça s'appelle « Le passé est ma saison préférée ». Rien à voir avec la cuisine, quoique c'est une évocation littéraire et un portrait de Gertrude Stein, la fameuse poétesse américaine, mécène de Picasso et d'Hemingway, qui avait pour compagne Alice Toklas,
et oui,
autrice d'un livre de cuisine de référence. Donc elle y revient, elle aussi, toujours à la cuisine, indirectement.
Okay.
Notamment avec cet agneau à la seringue. Hein,
absolument.
Qu'on retrouve dans ce livre de
cuisine. Je suis enchantée de ces deux cadeaux. Merci beaucoup, Elvira.
Avec plaisir, Hélène.
Dans un instant, Hélène Darroze, vous cuisinez en live sur la plaque de cuisson dont on va déguster. Et Jérôme Gagnez a aussi une surprise pour vous. Wish You Were Dead, du nouveau phénomène Lola Young, chanteuse anglaise de 24 ans.
Les masterclass dont on va déguster. Sur France Inter.
Le stress, ça sert à rien.
Et parce que tu es le Benjamin de notre brigade, tu vas tout exploser, d'accord?
Oui, chef.
Hein? Moi, je compte sur toi. T'es pas là par hasard. Donc, je sais que tu vas nous surprendre, d'accord?
Oui, chef.
Hein? Alors, tu te mets ça dans la tête et tu restes tranquille. Pas de stress. Alors, t'en es où, là?
Là, je suis pas mal.
T'es pas mal?
Qui se mettent en place.
Ça, c'est tes
pissons, là? Ouais, ça, c'est...
C'est pas mal, ça?
C'est pas aussi carré que j'avais espéré.
Ouais, et ben moi, c'est pas du tout carré. Hein. Tu sais à quoi ça me fait penser, moi, ça? Un dentier.
Oh là 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 là.
Ça va, Arnaud?
Waouh.
T'as plus qu'à me mettre une crevette, là, entre les deux, et hop, c'est le dentier qui croque la crevette. On est à Top Chef, là, hein. on passe pas le CAP. Hein.
Oui, chef.
Tu me dis oui, mais tu m'écoutes pas. Hein.
C'était un extrait de la 15e saison de Top Chef, diffusée il y a un an, où l'on vous entend souffler un peu le chaud et le froid, avec un candidat, Arnaud, que vous êtes en train de coacher. Vous êtes souvent décrite, Hélène Darroze, par vos candidats, vos candidates, comme une maman bienveillante et réconfortante.
Là, j'ai pas trop l'air, là.
Il vous arrive parfois d'être un peu mère fouettarde, c'est ça?
Bah, il y a des moments, il y en a qui goûtent pas, oui. Il y en a qui goûtent pas. Mais ça arrive très rarement. Quoi,
oui.
Mais
ouais. Hélène Darroze, la 16e saison de Top Chef a démarré mercredi dernier. Comment vous la sentez, là, cette saison?
Bah, c'est une saison un peu spéciale, hein, parce qu'on a des invités un peu spéciaux, avec les inspecteurs du guide Michelin qui sont là aussi pour juger les candidats régulièrement.
On vous a vu choisir mercredi pour le premier numéro de cette saison, choisir Philippines, autour d'un trompe-l'œil qui avait l'air de tenir ses promesses. Hein.
C'était un sujet sur le poulet-pomme de terre, et elle avait reconstitué une cuisse de poulet, avec une pomme dauphine, qui avait quand même le goût de poulet aussi. Et Philippine, c'est une candidate très, très attachante, qui a un super restaurant avec son compagnon, le Boréal, à Paris. C'est une jolie personne.
Et c'est d'ailleurs l'année 2015 de vos débuts à Top Chef, mais c'est aussi l'année où vous avez remporté le prestigieux prix de meilleure femme chef du monde par le classement des World 50 Best Restaurants. 2015, belle année, hein?
Ouais. C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal quand on me dit « vous avez été la meilleure femme chef du monde ». Non, je dis « on a été avec mes équipes », quoi, parce que c'est vraiment un prix que je partage avec eux.
Et en parlant de femmes au fourneau, je voudrais remettre un petit coup de projecteur sur un livre exceptionnel que je tiens au chaud dans ma bibliothèque, auquel je suis très attaché, si vous pouvez encore le trouver, même d'occasion, au Cherche Midi, « Les recettes de mes grands-mères ». C'est un ouvrage où vous rendez hommage, c'était en 2014, aux muses, aux aïeules, aux marraines qui vous ont nourri et qui ont influencé votre cuisine, à commencer par vos deux grand-mères, Charlotte et Hortense, mais grand-mères au sens beaucoup plus large de toutes ces femmes qui vous ont transmis du savoir.
Exactement.
Et des saveurs.
Il y a mes tantes, il y a des amis, il y a Léna dont on a parlé tout à l'heure, beaucoup de femmes avec qui j'ai eu la chance de partager et dans une cuisine et puis après autour d'une table et qui m'ont transmis des valeurs, des recettes, des... Voilà.
Je vous raconter une anecdote dans ce livre que je trouve particulièrement croustillante, écoutez bien. Dans ma famille, mon père et mes oncles qui étaient chefs se sont toujours taquinés pour savoir qui était le meilleur saucier. Mais pour moi, la meilleure, c'était ma tante Monique. Pour accompagner les gibiers, elle préparait une sauce grand veneur exceptionnelle. Au-delà d'un véritable savoir-faire, elle a ce je ne sais quoi de supplément d'âme féminin qui confère à sa sauce brune une parfaite rondeur, une douceur, une élégance. Moi-même, à titre personnel, en tant que cuisinière autodidacte, j'ai compensé mon manque de technique par une forme d'instinct et une recherche d'émotion.
Tout à fait, et je continue. Hein, je n'ai jamais été une technicienne, hein, je le revendique. Par contre, je cuisine avec mon cœur, avec mon instinct, avec mes souvenirs, avec mes rencontres. C'est ma manière de cuisiner.
C'est ce que l'on va vérifier avec notre séquence de la plaque de cuisson. Vous avez carte blanche là encore. On vous laisse quelques minutes, Hélène, pour nous montrer un geste, une astuce, une petite recette avec un produit emblématique que vous avez choisi.
Oui, alors j'ai choisi les crevettes sauvages de Mathieu Chapelle, qui est un pêcheur au Gros du Roi, qui a des poissons et des crustacés merveilleux, quoi, dont ces crevettes sauvages. Et voilà, quand on a un produit aussi exceptionnel, il faut tout cuisiner. Je vais faire une petite friture avec le corps, puis une petite marinade avec la queue. Avec le reste des carcasses, j'ai fait ce velouté, enfin ce consommé. On parle de sentiments et d'émotions, qui s'appelle le retour d'Hanoï. C'est un plat que j'ai réalisé quand je suis rentrée du Vietnam avec mon bébé dans les bras, ma petite fille, que j'avais adoptée. Tous les soirs, là-bas, je mangeais un plat qui s'appelle le feu, que vous connaissez tous, hein, à base de viande. Et quand je suis rentrée, j'ai eu ce besoin de le réinterpréter à ma façon, autour du crustacé. Donc, il y a le petit consommé qu'on ne va pas cuisiner là, mais qui se sert avec la queue.
On vous laisse enfiler votre tablier et rejoindre notre plaque de cuisson. Et je rappelle, Hélène Darroze, que vous avez fondé en 2011 l'association La Bonne Étoile pour l'éducation des enfants et des orphelins malades au Vietnam, pays en effet où vous avez adopté vos deux filles. Hélène Darroze, derrière la plaque de cuisson dont on va déguster, pour cuisiner de la tête à la queue, une crevette sauvage, fraîche et crue, donc.
Non, hop. Je sépare les queues des têtes, je sors la première carapace qui est assez dure, elle me servira pour faire le velouté, et je sors surtout tous les intérieurs. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de garder les pâtes qui vont devenir ces petits chips très croustillants.
Ça demande quand même beaucoup de délicatesse et de précision, cette étape.
Ouais, c'est pour ça que j'utilise la pince. Et alors, pour que ça soit croustillant et pas brûlé, je vais faire quelque chose que vous allez trouver sans doute un peu inédit, c'est que je vais commencer ma friture à froid. L'huile, elle est froide. Elle va monter en température petit à petit, et c'est ça qui va faire que les pâtes, qui sont très très fines de ces crevettes sauvages, vont devenir très croustillantes, mais pas brûlées.
On est avec quelle matière grasse dans la casserole, Hélène ?
Huile de pépins de raisin. Donc là, voilà, je dépose juste les corps dans l'huile.
Donc départ à
et
froid.
Et je laisse monter en température. Et vous allez voir, dès qu'elle commence à bouger, après, ça va très vite.
Alors, nos queues de crevettes sont décortiquées. Et là, vous les ouvrez finement en deux.
Voilà. Et on va juste les faire mariner avec un peu d'huile de basilic.
Ah.
L'huile commence à frémir. Ça va frire comme ça, tout doucement. C'est comme si elle bougeait à l'intérieur.
Elle danse dans l'huile.
Vous êtes un poète, Jérôme.
Eh oui, c'est vrai. Méconnu.
Ça frétille. Il faut que je sois attentive quand même. Donc, un peu de basilic.
Vous ciselez très finement des feuilles de basilic.
Basilic taille. Là.
Vous sortez les pattes de crevettes
exactement.
Du bain.
Un peu de cébette ciselée sur les queues. Un tout petit peu de fleurs de sel, de guérande. Bien sûr, ça c'est indispensable dans ma cuisine, c'est le piment d'Espelette.
Ouais, plus important que le poivre en fait.
Ah oui, mon huile de basilic.
Comment vous la faites en un mot, l'huile de basilic, Hélène ?
On chauffe un peu l'huile, on met à infuser le basilic, on blinde quoi, et puis après on récupère l'huile.
Vous filtrez, vous récupérez.
On filtre, ouais, on filtre.
Et c'est
sûr,
une huile neutre que vous utilisez pour l'huile de basilic ou une huile d'olive ?
Oui, huile neutre, huile neutre. Un peu de citron vert.
Un peu de zeste de citron vert.
Zeste de citron vert, oui, voilà. Et donc je vais mettre dans le fond.
Hélène passe au dressage.
Voilà, exactement. Donc, quelques crevettes et un peu d'herbe et de cébette. Et alors, sur les crevettes, je vais assaisonner avec un peu de plancton.
Waouh !
C'est une poudre. Ça va apporter un peu de salinité, d'iode. Donc là, je verse le consommé, le retour d'Hanoï. Donc,
et c'est un consommé froid.
C'est un consommé glacé qui est plein d'herbes, d'épices, un peu de sauce Nhoc Man. C'est surtout le petit croustillant des pâtes qui m'intéressait de vous montrer, quoi.
Hélène, l'intitulé de cette recette ?
On pourrait dire presque la crevette sauvage de Mathieu Chappelle, de la tête à la queue, hein, sur le thème du retour d'Hanoï. Voilà.
Merci, bravo. Et je vais appeler à notre micro une dégustatrice de notre public qui s'est portée volontaire. Anne, on va vous laisser la primeur de la dégustation. À vous de commencer. Ah, vous êtes un peu impressionnée.
Oui, je suis impressionnée. C'est parce que je dois commencer par les pâtes.
Comme vous voulez.
Je vais manger les pâtes et la carcasse. C'est délicieux.
Voilà.
Et c'est frais. J'ai l'impression d'être au bord de la mer.
Pardon, mais on a presque affaire à une confiserie.
Il y a un petit côté beignet, oui.
Allez, à vos cuillères.
C'est particulièrement réussi, là. Oh. Les pâtes.
Ouais, c'est
il y a une subtilité dans le croustillant. C'est remarquable, d'équilibre.
Bah, merci.
Et surtout, le contraste ensuite avec cette crevette crue. Glacée. Qui est très soyeuse, très pulpeuse.
Il m'en faudrait plusieurs chips, Hélène. Excusez-moi.
Ah bon, ben alors voilà. Maintenant, vous ne jetez plus les carcasses alors, hein, à la maison. Voilà.
Je peux poser une question ?
Mais bien sûr.
On n'est pas tous près du producteur dont vous parlez.
Ouais, alors c'est vrai, vrai que voilà, c'est difficile de trouver aujourd'hui des crevettes fraîches ou des gambas fraîches.
Alors c'est quand même la saison des crevettes bouquets. Hein, nous avons des crevettes françaises, pêchées, sauvages, en Atlantique, hein, voilà, c'est important, donc on peut en trouver, mais c'est vrai que la crevette, on lui a déjà consacré une émission, c'est compliqué de trouver une bonne crevette, souvent elle est mal élevée à l'autre bout du monde.
Mais est-ce qu'à partir du moment où on trouve une bonne crevette quand même, Est-ce qu'on peut réaliser la même recette, la même opération
bien sûr. Ouais,
avec
bien
la...
sûr.
Elvira ne dit rien, mais elle a, ah ouais, elle a fini son bol.
Vraiment, je me suis régalée. C'est à la fois très délicat et très puissant, très évocateur. Et puis, il y a tous ces marqueurs, comme on dit, d'épices douces voilà, qui sont vraiment, qui se répondent.
Il y a vraiment la... Enfin,
pour et moi, une petite pointe de gnocchi mam aussi, oui. Qui, fait, qui donne ce petit twist et qui exauce la saveur voilà, iodée et poisson.
Très, très beau travail. Franchement, c'était...
Un régal.
Un merci. Pur régal.
Bah merci à vous.
Merci beaucoup, Anne, d'être venue déguster à nos côtés.
Merci.
Hélène Darroze, c'est l'heure de votre temps d'échange avec un certain Jérôme Gagnez.
On va déguster. Sur France Inter.
Ah. On a eu peur.
Saloperie de bouchon qui résiste. Alors, chère Hélène, on sait tous que vous êtes originaire des Landes. Est-ce que vous connaissez bien le vignoble des Landes et le vignoble du Gers qui se jouxte, l'Armagnacois? Non, pas Tursan. L'Armagnacois et puis les vins qui y sont produits.
Les vins, pas tant que ça. Je connais beaucoup mieux l'Armagnac.
Moi, j'ai découvert l'Armagnac grâce à votre père.
Et c'est vrai qu'il a été le premier à ne pas faire d'assemblage, déjà, et surtout à millésimer, à en faire des millésimes.
Et ben, j'en ai bu il n'y a pas encore pas très longtemps. J'ai bu un 85 de votre père. Absolument
non,
extraordinaire.
C'est mon frère. Hein.
Oui,
c'est Marc. Ouais.
Et c'est Marc, maintenant, qui fait ça. Mais donc, ce nom a toujours été familier grâce à l'Armagnac. Mmh. Alors, je vous parle aujourd'hui d'un vin qui vient donc du vignoble qui est juste à côté de chez vous. C'est un vignoble dans lequel je dois avouer que je trouve rarement mon bonheur, parce que c'est un vignoble dont les vins sont très stéréotypés. Mais je voulais vous parler d'un domaine qui est très, très singulier, qui est le domaine de Dominique Andirand. Je ne sais pas si vous connaissez. Et Dominique Andirand, il est très singulier parce que dans une région où les domaines sont plutôt un peu grands, dans une région où les domaines produisent des vins qui se ressemblent beaucoup, qui sont une forme de recette avec des vins à base de colombard très aromatiques, eh bien Dominique, lui, produit notamment ce vin blanc qui s'appelle vin de rue, V-A-I-N, plus loin 2, plus loin rue, R-U, accent circonflexe, comme le tout petit ruisseau. Mmh. Et c'est un 2021, c'est un pur colombard. Mais à l'inverse de ce qui se fait dans cette région, c'est un vin qui est issu de colombards qui sont avec des petits rendements, qui sont mûrs et qui sont donc extrêmement singuliers. Le domaine est en bio, certifié depuis 2007. Les premiers essais en bio sont depuis 2000. Si vous ne connaissez pas ce domaine, vous n'avez probablement jamais goûté un vin de Gascogne qui ressemble à ça. Mmh. Et chose très rare, je ne suis pas toujours un très grand fan des vins nature, je l'ai souvent dit aussi à cette antenne. C'est un vin qui est totalement nature, là-bas.
D'accord.
C'est un vin qui
sans
est
intrant.
Sans intrant, sans sulfite ajouté, y compris à la mise en bouteille, donc il n'y a vraiment aucun sulfite. Donc il y a cette dimension d'une légère oxydation qui d'habitude me
donne un côté un peu sésame grillé.
Ça, pour le coup, c'est la réduction. Et puis, il y a aussi un caractère oxydatif qui vient avec des notes un petit peu de pomme. Mais on a surtout, dans ce vin, un nez qui évoque le fruit jaune, qui évoque les épices. Et quand on goûte ce vin, et c'est d'ailleurs intéressant avec les crevettes que vous nous avez proposées, il y a un gras.
Oui, il y a du gras.
Une profondeur.
Il y a de l'aromatique.
Un mix. Hein. Mais oui, il y a de l'aromatique, un mix entre une acidité et une amertume qui vont de concert pour apporter un contrepoint à ce gras en bouche. Et j'ai pensé spontanément à ce vin pour vous, parce que précisément, je pense que c'est intéressant de redécouvrir ce que peut donner la Gascogne en dehors de ces vins très stéréotypés qui nous ennuient souvent.
Ouais, c'est vrai que
On est d'accord, donc voilà. Et je voudrais vous offrir son pendant en rouge qui s'appelle Magnus, c'est un pur merlot. C'est sur des argilo-calcaires parce que Dominique Andirand est dans la partie ténarèse de l'Armagnac. Vous goûterez, et j'espère qu'il vous plaira, ce rouge de pur merlot qui est à la fois un peu à l'image de ce blanc, d'une grande digestibilité. Les tanins sont très soyeux, mais il y a du fond, il y a de la chair, il y a de la structure. Voilà, et ça me fait très plaisir de vous faire découvrir ça. Voilà, Dominique Andirand. Et le blanc que nous venons de déguster s'appelle vin de rue, V-A-I-N, plus loin, D-E, plus loin, rue, R-U, accent circonflexe, 2021.
Le budget pour ces vins nature ?
14 euros pour le vin de rue et 13 euros pour la cuvée Magnus.
Merci beaucoup, Jérôme Gagnès, pour ces découvertes, sachant que vous répondez souvent, Hélène Darroze, que votre boisson favorite, c'est ?
Bah, y a le thé, beaucoup de thé vert, et puis moi j'adore l'eau. Ouais.
L'eau ?
Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur. Alors d'abord des altérants, mais j'aime le goût de l'eau. Voilà.
Il y en a 85% dans le vin, ça va bien.
S'il vous plaît, Jérôme Gagnez, le vin à boire avec modération évidemment, même si je crois que vous n'êtes pas toujours contre un bon cocktail de temps en temps au bar du Connaught pour son Bloody Mary exceptionnel, qu'on n'a pas eu la chance de goûter.
Ah, mais il faut venir.
Un grand merci Hélène Darroze d'avoir été à nos côtés pour cette masterclass.